Voilà. Donc, premier livre des Chroniques, chapitre 3. Nous avons ici les descendants de David. C'est important de mettre un regard dessus sans s'attarder. Et que Dieu nous bénisse dans la lecture de la parole. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Donc, c'est pas Jérusalem. Hein. Le premier, Amon, d'Akinoam de Yisraël. Le second, Daniel, d'Abigaï de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaca, fils de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, d'Abital. Le sixième, Jitriam, d'Egla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois. Il régna 33 ans à Jérusalem. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans tous ces six, hein, il y en a deux qui vont vraiment provoquer un drame extrêmement important. Absalom, jusqu'au point de vouloir l'assassiner, de violer les femmes de David au-dessus, en public, au-dessus de la maison, de l'endroit où ils habitaient, et de mettre un désordre incroyable dans le peuple d'Israël. Tout ça, c'est le fruit de la polygamie, n'est-ce pas ? Dieu n'a jamais dit qu'il fallait avoir 6 femmes. Une seule suffit. Pour celui qui sait que le couple, la vie de couple, est la chose la plus difficile à réussir et qu'il faut l'aide de Dieu, c'est une grave prétention et un signe d'orgueil et d'en chercher à en avoir plusieurs. Qui sommes-nous pour pouvoir aimer avec passion, avec vérité, plusieurs personnes en même temps? Qui sommes-nous? C'est la meilleure façon de tricher, de se tromper soi-même. Ça s'appelle de l'iniquité. Et Adonijah, ça a été la même chose. Absalom et Adonijah ont fait des choses extrêmement graves. Alors, d'autres naquirent bien sûr à Jérusalem, verset 5. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shimea, Shobab, Nathan, Salomon, 4 de Batshua, fille d'Amniel. Jibar, Elishama, Eliphelet, Noga, Nefek, Shafia, Elishama, Eliada, Eliphelet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Bon, il y a encore des concubines. Et Tamar était leur sœur. Bien sûr, quand on voit qu'il n'y a que des garçons, imaginez, il y a peut-être le double de filles. Hein. Tout le monde a vu cette photo-là, hein?
Oui. Oui.
Voilà. C'est très, très important. Et bien sûr, si vous voulez savoir où je trouve cette photo, ben, vous avez la mosquée ici, dont le dôme a été payé par l'UNESCO. Alors, pratiquement, vous avez 9 garçons et 6, ça fait 15. Une sœur qui est citée, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est dans cette descendance-là que vous allez avoir toutes sortes de gens. Hein. Regardez bien au verset 10, fils de Salomon, Roboam. C'est celui-là qui va avoir 2 tribus au sud et qui va perdre, par perte, parce qu'il est tellement prétentieux, etc., arrogant, il va perdre. L'assentiment des 10 tribus du nord, elles vont se révolter contre lui. Et puis alors il y a toute une série de rois qui sont cités, et on arrive au verset 19 à Zorobabel. Zorobabel, dont on a parlé, qui est dans le livre d'Esdras, les 6 premiers chapitres du livre d'Esdras, pour le retour à Jérusalem et pour reconstruire, eh bien c'est Zorobabel qui est ensuite secondé et devancé par un homme de prière, un homme de l'écriture, beaucoup plus compétent que lui, pour enseigner le peuple, Esdras lui-même, du chapitre 7 à la fin. Alors, j'ai voulu vous montrer quand même qu'il y a, eu des hommes bénis, même s'il y a eu, de la part de David, beaucoup d'égarements, il y a des bénédictions. Qui de nous n'a pas eu des grands-pères et des grands-mères dans l'égarement, dans le péché? Ou c'est peut-être nous qui le sommes. Est-ce que nos enfants vont subir nos égarements, les conséquences de nos égarements? Ça peut arriver. Mais il peut toujours y avoir une grâce sur l'un ou l'autre qui va échapper à cela et qui va être vraiment en ordre avec Dieu. Il faut toujours prier pour la bénédiction sur la famille. Et il faut toujours prier pour être dans la bénédiction, c'est-à-dire dans l'obéissance et l'approbation de Dieu. Alors, nous allons dans le même livre, chapitre 23. Chapitre 23. Premier livre des Chroniques, chapitre 23, verset 1. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Rassasié de jours, eh bien, ça veut dire qu'il y avait plein d'eau, hein. Il était temps de s'en aller. Vous n'avez pas parfois l'impression que vous êtes rassasié? Vous avez fait le tour du problème, 10, 15, 200 fois, 300 fois, et puis autant prendre l'avion, hein. Ben, ça arrivait, hein. Ça arrivait, bien sûr, à David. Je ne dis pas qu'il était dégoûté, il était rassasié. Il n'avait plus faim, c'est ça que ça veut dire. Un jour, on n'a plus faim de vivre. Et il arrive, hein, il y a des personnes comme ça âgées qui disent, ben, dans 8 jours, je serai mort. Et ça arrive, parce qu'ils sont rassasiés. J'en ai connu plusieurs, et c'est pas plus mal. Ils donnent le raccord pour partir. Maintenant, allons au chapitre 17 du même livre. Il faut savoir quitter même tout ce qu'on a de plus cher et de moins cher et choisir le Seigneur vraiment. Un jour, c'est sûr, rassasié de jour. Chapitre 17.
17.
Chapitre 17, verset 11. « Quand tes jours seront accomplis, que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. » Donc voilà une prophétie de Nathan que Dieu a reçue et que Nathan vient répéter à David. « Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. » Et je ne lui retirerai point ma grâce comme j'ai retiré à celui qui t'a précédé. J'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Cette prophétie est donnée à David concerne au premier degré Salomon, mais Salomon n'a pas obéi. Salomon a obéi un certain temps et puis a été infidèle. Or, nous savons qu'il y a des prophéties qui nous montrent que si ce règne n'est pas fait sans péché, eh bien, il sera donné à un autre qui est sans péché. Et c'est le Christ. C'est le Christ qui ira sur le trône, parce qu'il est sans péché. Et là, ce sera le trône pour toujours à Christ, pour Christ. Ça va ? C'est extrêmement important. Dans Deutéronome 17, Deutéronome, un livre écrit par Moïse, comme 4 autres avant. Deutéronome chapitre 17, verset 14. C'est à propos de la royauté. Et donc, quand Moïse, en 1430, sort d'Égypte et qu'il est dans le désert, déjà Dieu lui dit la ligne conductrice pour cette royauté dont Nathan a reparlé à David pour, en principe, Salomon, mais surtout pour Christ. Deutéronome 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. » Qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, donc les 5 premiers livres, la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça la Torah, la loi. et pratiquement qu'il prendra auprès des prêtres et des lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Vous vous rendez compte la radicalité d'une prophétie pareille? Et ils vont quand même faire le contraire. Méfions-nous de nous-mêmes, les amis, hein, parce qu'on est bien capable de faire des trucs pareils. Hein. Bien capable, bien souvent dans sa vie, de faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Hein. Méfions-nous. Nous ne sommes pas tous des Salomon, des David, sûrement pas. Mais on a en effet de la même chair, hein, les deux yeux, un nez, deux oreilles, le même péché. Sordide de péché qu'il faut haïr. Dans les livres des Proverbes, c'est mis que l'intelligence, c'est la haine du péché. La haine. Comme Dieu a haine, la haine du péché. Il faut avoir la même passion que Dieu, ce qui n'est pas simple. On doit avoir l'amour des pécheurs et la haine du péché. Donc vous voyez à quel point c'est extrêmement important, à quel point c'est Samuel lui-même dans son livre, dans les premiers chapitres, va dire, vous voulez un roi, ben on va vous le donner, je vais demander à Dieu. Et puis, mais avertis-les, voilà un roi humain ce qu'il va faire. Et vous connaissez ça dans le premier livre de Samuel. Vous savez ce qu'il y a mis? On va aller voir. Et c'est quand même pas quelque chose, aujourd'hui c'est encore la même chose, partout, pour tous les dirigeants humains. Hmm? Alors, nous allons essayer de le trouver, il est au début du livre, du premier livre de Samuel. Voilà. Et chapitre 8, premier livre de Samuel, chapitre 8. On ne peut pas dire que David et Salomon sont nés sur un terrain inconnu, un terrain d'ignorants. Il y avait des enseignements. Ben, malgré les enseignements, c'est un petit peu comme les enfants des chrétiens. Ils grandissent dans l'église et puis après ils font tout le contraire. Ben, ma foi, c'est pas compliqué. C'est humain, c'est la semence du péché. Donc on n'est pas chrétien parce que les parents sont chrétiens, on est chrétien parce qu'un jour, on voit son péché et on demande pardon à Dieu. On voit Christ à la croix qui meurt pour moi, pour mon péché. Alors, 1 Samuel chapitre 8, au verset 5, ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi, pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Bon, ils disent ça à Samuel, parce qu'il est vieux, oui. Bon, ben, plus loin, Dieu va leur dire, va dire à Samuel certaines choses. Verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. T'imagines ? C'est le scanner marche à fond, hein, dans la Bible. Hein ? On ne peut pas louper la photographie, hein. Alors, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et c'est pour aller promener, hein, c'est pour visiter la France touristique, et puis après la Russie, la Norvège. Non, c'est pour faire des bagarres. Ils ne vont pas tous revenir. Et se faire couler du sang. Hein? Et puis après quoi? Et les fils, hein, ils vont faire aussi autre chose. Hein? Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Ok ? Si aujourd'hui, le ministère de l'enseignement délègue 65 personnes pour visiter les écoles et promet des primes aux écoles, de l'argent aux écoles qui vont recevoir ces 65-là, pour enseigner aux enfants de 3 ans comment utiliser le sexe. En Wallonie, ça vient d'être décidé, 65 personnes. C'est parce qu'on vend des armes. C'est parce que l'AFN produit des armes d'une manière considérable. On peut payer ce sale boulot pour corrompre les enfants grâce à un argent corrompu, du sang qui coule sur la terre. Je ne crois pas qu'on va être béni longtemps à ce train-là. On joue trop fort avec Dieu. Alors, le jugement est déjà préparé. Il prendra vos filles, verset 13, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Je m'excuse pour le mot parfumeuse, mais coucou panier. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Et la donnera à ses serviteurs. Donc, les meilleurs champs, les meilleurs terrains, hop, vous prenez les riquettes, hein, là où il y a beaucoup de cailloux, de buissons, etc., les mauvais terrains. Mais moi, c'est pour moi les meilleures récoltes, c'est pour moi les meilleurs rendements. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. 10% de tout. Mais écoutez bien, c'est un minimum. Ça veut dire que dans l'injustice, après, quand elle est établie, ça peut aller beaucoup plus. Jusque dans l'Apocalypse, cheval noir, un effa de blé pour une journée de travail. Alors qu'à la fin du premier siècle, un ouvrier de la fin du premier siècle avait 12 effas de blé. Donc voilà, à la fin de notre histoire, bientôt, 12 fois moins à manger dans le monde qu'à la fin du premier siècle. Pourquoi ? Parce que c'est nos rois qu'il y a sur la terre qui sont en train de prendre tout, nos terres. Regardez comment les paysans sont au bord de la faillite, comment ils s'épuisent. Nous avons été à un mariage dernièrement, et deux paysans étaient là, deux frères, à la mariée, ils nous ont dit, nous tenons de façon rigoureuse nos comptes, notre ferme, notre matériel, tout. Ça fait 2 ans qu'on est en dessous du prix de revient. Si ça continue, demandez à Ghislain, il pense la même chose. Pratiquement, c'est pour que les banques et au-dessus des banques, certaines personnes prennent toutes les terres. C'est la même chose. Il y a des rois derrière les banques. Il y a des rois. Sans couronne, comme ça, ça passe mieux. Alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Bof. Ben, ma foi, il va choisir un roi. Bof. Vous le voulez, ben vous l'aurez. Hein. Vous savez, avec Annie Cordy, tu m'as voulu, tu m'as eu. Hein. Annie Cordy, eh ben c'est un peu ça. Quand on aime le péché, ben on récolte ce qu'on aime. Hein. On ne vaut plus rien après. On en paye, on porte la peine de son péché. Ça peut durer longtemps jusqu'au jour où le Seigneur va dire, allez, je te retire ton fardeau. Parce que tu es venu à moi. Tu as plié le genou, tu t'es repenti. Allez, dépose ton fardeau, je le prends. Je le prends. Je vais le mettre où, au placard ? Non, sur la croix. C'est mon fils qui le porte. Voilà le climat dans lequel Salomon va commencer son règne. Puisque c'est annoncé. Puisque c'est vu au scanner de Dieu. Retournons dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22. Vous savez pourquoi, l'air de rien, je suis motivé pour choisir ce thème de Salomon, etc., du temple et tout. D'abord parce que Jérusalem va devenir un lieu essentiel de toutes les disputes dans les mois qui viennent. avant le 12 mai 48, hein, anniversaire, 70 ans, ça monte. La levure fait mousser, fait monter la pâte. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi, regardez tous les gens qui dirigent le monde. Le petit de Corée, mais le grand de Chine, le grand des États-Unis, en Europe, regardez-les tous. C'est le même climat. Pour le moment, je me demande où est le sage dans toute cette bande-là. Un chronique, chapitre 22, verset 5. David disait, mon fils Salomon, chapitre 22, verset 5. Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Donc il a une vision de Jérusalem et du temple, une vision glorieuse. Mais lui, il pense que c'est pour Salomon. Nous pensons que c'est pour Christ. Hein. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et pourquoi David ne peut pas construire? Parce que au verset 6, tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Salomon aussi a fait des guerres et a fait verser du sang. Est-ce que Jésus a fait verser du sang? Jamais. Jésus a versé son sang. Pour moi, pour vous. Pour notre rédemption, pour notre salut. C'est tout le contraire des faux rois. C'est lui le vrai roi. Et lui, il n'a pas versé de sang des hommes. Il pleure tous les jours pour le sang qui coule sur la terre. Il ressuscitera tous ces innocents. Il les prendra auprès de lui. Tous ces malheureux de la terre, il les prendra auprès de lui. Et les autres seront châtiés. Le vrai roi n'a pas fait couler de sang. Il va ressusciter le sang des innocents, le sang des victimes. Il va ressusciter le sang innocent, mais il va châtier les injustes, comme dans le psaume 5. Alors, dans le chapitre 22, au verset 10, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. » Et j'affermirai pour toujours le trône, son royaume en Israël. Cette parole vient, bien sûr, non pas directement de David, mais du prophète Nathan. Et même d'un autre prophète, le prophète Gad, qui avait confirmé Nathan. Cette parole, regardez bien, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je ne vois qu'en Jésus cet accomplissement. Dans Jean, chapitre 4, verset 14 ou 24, il est mis « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Tout ce que j'ai dit vient de mon Père. « Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Je leur ai donné la parole que tu m'avais donnée pour eux. » Les amis, c'est lui le vrai fils. Le seul fils. En face du seul Père, le vrai Père. Digne d'être appelé Père. C'est lui le seul appelé à être le vrai roi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» Tu le dis, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu sur la terre pour rendre témoignage de la vérité. Ah, tiens. Et les autres rois sur la terre, ils l'ont rendu ? Ça, peut-être ça, ça. Donc, quand nous lisons Salomon, nous pouvons considérer que ce que Jésus a dit de lui, en Luc chapitre 12, est d'une vérité pas méprisante. C'est une vérité, simplement. Ce n'est pas du mépris, mais c'est de réalisme à la matière de Dieu, à la manière de Dieu. Dans Luc 12, dans Luc 12, verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus qu'une nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni salier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En Israël, il y a une seule tribu, une partie de tribu, un clan, qui a accompli cette parole jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Les Récabites, les fils de Récab. Ils ont toujours promis de ne pas vivre dans une maison, de vivre sous une tente. Et de ne pas vivre dans les villages, de vivre à côté. Les Récabites ont, dans Jérémie 31, la promesse, ou Ézéchiel, mais je pense que c'est Jérémie, la promesse que l'Éternel les recevra. L'Éternel. Comme Israël, quand il reviendra des nations, il les recevra. Où sont les Récabites aujourd'hui? Pour moi, personnellement, ça ne s'oblige personne, je pense que c'est les Tziganes. Parce qu'ils trimballent toujours, ils ne sont jamais dans des maisons, et tous les statistiques, tous les trucs qu'on va rechercher, c'est des Indo-Européens, ils viennent de là-bas, bon. Et pratiquement, pourquoi est-ce qu'Hitler les a mis au four avec les Juifs? Le diable sait très bien qui ils sont. Même s'ils ne portent pas le nom de Juifs, mais s'ils sont en descente, le diable sait bien, lui. Ils ne doivent pas être au rendez-vous de Jésus. Pourquoi le pasteur Le Gossec a fondé, acheté un château avec sa fille, puis qu'il a appelé les Tziganes, et qu'il y a 1 million de chrétiens tziganes devenus chrétiens aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le pasteur Gossec a fait ce qu'il devait faire. Et pourquoi est-ce qu'il a commencé par des miracles, des guérisons, et tout ça? Mais parce que tous ceux qui deviennent d'Israël ne cèdent à Dieu, ils ont la tête dure, que s'il y a des miracles. Les Juifs réclament des miracles, en 1 Corinthiens. Les Grecs demandent la sagesse.
Est-ce qu'ils ne savaient peut-être pas lire et écrire non plus? Donc c'était une des seules façons que Dieu se révèle directement à eux.
Voilà. Donc, quand on voit ça, naturellement, la majorité des Juifs, il y en a, ils ne sont pas tous riches. Hein. Moi, j'étais en Israël, il y en a qui ils bossent pour gratter hein, et ils n'ont rien de trop. Mais pratiquement, c'est quand même là que s'accumule une énorme richesse. 67% de tous les brevets du monde, hein, tous les ans sont produits par les Juifs. Et d'autre part, les brevets amènent de l'argent. Et les grandes banques internationales, c'est eu. Ça accomplit la prophétie d'Ésaïe, en chapitre 61, chapitre 66. Vous sucerez le lait des nations. Mais pratiquement, il y a un autre témoignage. Il y a des Juifs qui vivent au jour le jour par la grâce de Dieu. Et moi, j'ai toujours pensé, quand je rencontrais les Tziganes, à part quelques-uns qui jouent au caïd, et les grosses bagnoles qui aiment les sous, les beaucoup de bagues, mais les autres vivent au jour le jour. Hein? Sans savoir, sans doute, qu'ils sont marqués par la parole. Alors, regardons plus loin. Verset 27. Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, si un lys des champs est plus beau que Salomon, tout simplement, c'est parce que le lys, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Il n'y a pas des hommes qui naissent sans péché, en dehors de Christ. Abraham, j'ai déjà rencontré les témoins Jéhovah ou les musulmans, ils disent Abraham n'avait pas de péché. Moïse n'avait pas de péché. Mais c'est faux, ça. Tous ont du venin de serpent sous la langue. Tous sont pécheurs. Nul n'est intelligent. Nul n'est juste. Nul ne connaît le chemin de la paix. Tous ont du sang sur les mains. Romains, chapitre 3, verset 10 et suivant. Tous sont privés de la gloire, verset 23. Pourquoi? C'est tous les versets pris dans l'Ancien Testament. Dieu l'a toujours dit qu'il n'y avait pas un seul juste. Tous doivent se repentir. En dehors de Jésus, il n'y a pas de juste. Donc, quand nous allons vers notre brave Salomon, qui est un homme fait de chair comme nous, nous découvrons à la fois la grâce de la sagesse et la misère du péché. Comme ça, nous ne l'idéaliserons pas. Reprenons le premier livre des Chroniques, chapitre 28. Est-ce que j'ai été déjà au chapitre 22 avant? Je ne sais plus, je pense. Je vais regarder. Yahweh. Oui. Alors, au chapitre 28, versets 2 à 12. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, parce qu'il avait bien du mal de marcher, hein, il était à la fin de sa vie, il avait fort mal aux pieds, comme certaines personnes ici, tiens. Le roi David se leva, mettez-vous debout pour chanter. David avait du mal, il ne se levait plus trop pour chanter dans le temple, mais son cœur y était. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos. C'est pas une maison de retraite, hein. Une maison de repos pour l'arche de l'Alliance, de l'Éternel, et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Il est honnête quand même. Dieu a mis le doigt sur sa conscience, hein. Il ose le dire comme ça est. Hein. On dirait aujourd'hui, je suis un assassin. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient assassins et qui se sont convertis. Dieu est grand pour changer la vie de quelqu'un, vous savez. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. C'est vrai. Et de toute façon, il n'y a rien fait, hein. C'est Samuel qui avait vu tous les fils. Et puis il a dit, non, c'est pas celui-là, il y en a encore un autre, parce que le père ne voulait pas. Il était en train de garder un mouton. Va me le chercher, c'est lui. Hein? Et pratiquement, voilà. David, il n'a pas choisi. Hein? Il n'a pas fait une campagne électorale. Il n'a pas fait, il n'a pas mis des affiches. Il n'a pas eu l'aide des banquiers pour faire sa campagne électorale, ni d'un parti. David a été choisi gratuitement par Dieu, par élection. Verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que même si David a eu le trône, Salomon a eu le trône est celui du royaume de l'Éternel. C'est pas le trône d'un homme, c'est le trône du royaume de l'Éternel. Et le trône du royaume de l'Éternel va finir par être donné à Christ. Vous comprenez? Faites bien attention. Chaque fois qu'il y a un roi dessus, c'est un roi provisoire et pécheur, en attendant le vrai roi. Mais il y a un seul trône. Un seul trône. Verset 6, il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Vous avez remarqué qu'il y a « s'il reste attaché ». Donc, ce n'est pas le cas, donc ce ne sera pas pour toujours. Il sera sur le trône pour un certain temps. Au point que sa conduite a été tellement désagréable pour Dieu, que Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Ajija, qui venait de Silo. Ajija, c'est pas Aziza, hein. Ajija, pas de Virton, mais Ajija de Silo, pour venir parler et lui dire, ta-ta-ta-ta, Dieu veut te retirer 10 tribus au nord. Et il va lui donner un homme du peuple, un homme qui t'a détesté, qui a voulu te frapper, Jéroboam. Tu ne garderas que 2 tribus, Juda et Benjamin. Tu as beaucoup trop péché. On va voir pourquoi. Et comment. S'il reste attaché comme aujourd'hui, donc c'était aujourd'hui la promesse. Et demain, ben, notre brave Salomon va désobéir. Les amis, quand on donne sa vie à Jésus, quand on est baptisé, après un certain temps, tous les jours on doit se dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de trahir l'alliance qui a été conclue entre Jésus et moi ? Seigneur, montre-moi par ton Saint-Esprit, si je suis en ordre avec toi, montre-moi, éclaire-moi. Parce que si je veux m'éclairer moi-même et me dire, je suis un bon chrétien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'est pernique. C'est la propre justice. Le salut par les œuvres mortes. Les œuvres que je peux faire ne donnent pas le salut. On ne convainc pas, on ne séduit pas Dieu. On ne lui saute pas sur les épaules, on ne lui saute pas sur le nombril. On ne le met pas dans la poche. Dieu est Dieu, il est grand. Et donc nous avons toujours la nécessité de rendre grâce à Dieu pour l'amour de Jésus, pour le salut qu'il nous a donné, mais aussi la crainte. La crainte de qui? De Dieu? D'abord de mon péché. Mon péché, c'est mon poison. Et puis ensuite, oui, si j'aime mon poison, je dois avoir la crainte de Dieu. Hein? Parce que je fausse ma relation avec Dieu. Dernièrement, j'ai reçu pendant quelques jours quelqu'un, un homme, qui souffrait beaucoup et qui est chrétien, qui a fait un long parcours de souffrance dans toute sa vie. Et il a un taux d'arsenic dans son sang de 10 fois supérieur à la moyenne. Il est toujours vivant, au miracle. Mais il a été l'objet de malédiction de son père qui était sorcier, de ma grand-mère, etc. Un taux d'arsenic dans le sang 10 fois supérieur. Donc c'est un sujet de prière, que son taux d'arsenic revienne à la normale. Un sujet de prière. Sujet de prière. Si vous avez du temps pour prier, je suis souvent en correspondance avec lui. Mais voilà, il y a un secrétaire internaute. J'affermirai pour toujours son royaume, verset 7, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements. Les amis, le Seigneur peut affermir chacun de nous dans la relation avec lui s'il reste fidèle et obéissant. Le Seigneur Jésus, par son sang et par le Saint-Esprit, peut affermir chacun de nous s'il reste obéissant Jésus à sa parole. Mais croyez pas que vous serez ferme et costaud sans être à Christ entièrement. Vous serez en débris, en chaos, et plus vite au service du diable que de Jésus-Christ. Voici donc une parole au verset 9 de David pour son fils. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Serre-le d'un cœur dévoué. » Dévoué, ça veut dire tout donné. Hein? « Et d'une âme bien disposée. » Donc, sans être obligé, parce que tu l'aimes. « Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Regardez ça. « Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Bien sûr, à la différence de Salomon qui va construire un temple alentour de cette pierre, en souvenir du sacrifice d'Isaac et d'Abraham, et en vue du sacrifice de Christ, hein, ce temple, nous avons un temple, et ce temple, il est là. Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On va chanter un chant. Oui, je suis.
Oui, je suis. Je suis le temple. Oui, je suis. Oui, je suis. Je suis le temple. Oui, je suis. Oui, je suis. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Nous sommes.
Oui, nous sommes, oui, nous sommes, nous sommes le temple. Oui, nous sommes, oui, nous sommes, nous sommes le temple. Oui, nous sommes, oui, nous sommes, nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie.
Alors, voilà les enfants, entrez, Willkommen, ça sublime, Willkommen. Vous savez très bien que Pierre a dit que nous sommes les pierres vivantes du temple de Dieu. première épître de Pierre, et puis nous arrêtons, parce que les enfants nous mettent le point pour arrêter. Alors, regardez bien dans première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, donc Jésus-Christ ressuscité, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, et, regardez ça, édifiez-vous, donc construisez-vous sur cette pierre, pour faire un temple, hein, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, en pneumatikos, c'est-à-dire dans Saint-Esprit, un saint sacerdoce, donc pour rendre grâce à Dieu et pour intercéder, adorer, afin d'offrir des victimes spirituelles, nous, les victimes spirituelles, pas le péché, quick, et vivant Saint-Esprit. C'est nous les victimes, c'est ça, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Suis-je une victime spirituelle? C'est-à-dire, suis-je sacrifié à Christ? Ai-je condamné ma chair, mon péché? Est-il mon ennemi? Est-ce que je suis en train de me donner tous les jours à Christ? Comme quelqu'un qu'on assassine, on tue le vieil Adam, le vieil être en moi, et j'y consens, et je reçois le nouvel être, le Saint-Esprit. Je suis la maison spirituelle de Dieu. L'offrande agréable à Dieu. Regardez ça. Et donc, quand on a étudié et on a regardé cette photo, que Salomon construit un temple et que la pierre là, d'Abraham et d'Isaac est là, c'est en vue d'une maison spirituelle en Christ. La maison que va construire Salomon et qu'on va étudier les dimanches après est une maison provisoire. Provisoire, mais honorable. Honorable. Pour que tout le monde d'Israël apprenne à tourner les yeux vers le sacrifice de Christ et vers la maison spirituelle de Christ. Amen.
Amen. Amen.
On va chanter avec les enfants un chant. Vous avez quelque chose à proposer, les enfants? Un chant?